Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe 1 avec Mickaël qui regarde,
yes.
Benac, Christine Bérou, Jean-Philippe Vizini.
Bonjour.
Le week-end fut bon, Jean-Philippe Vizini?
Très bien, très bien. Vous savez que on a acheté quelque chose à notre fils, c'est une montre connectée pour le suivre partout où il va. Il a 10 ans, donc c'est vachement bien. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'il sort avec. Du coup, je l'ai dit qu'il pouvait rentrer tout seul de l'école. On peut l'appeler dessus, tout ça. Il est parti et la montre, elle marche plus. Et depuis le début, là, ça fait une heure, je suis sur Internet, sur des forums pour essayer de voir comment ça marche. Je lui ai dit, tu peux rentrer tout seul, t'auras juste à m'appeler avec la montre pour me dire, papa, j'arrive, tout ça. Donc on verra bien si ça va être la surprise.
Bah, mais sinon, faut le chercher.
La suite au prochain épisode.
Mais il rentre déjeuner à midi ou c'est le soir?
Non, le soir.
Bah,
il fait la journée à l'école. Ben, je sais pas, du coup.
Bah, comment je sais pas?
Non, mais il apprend l'autonomie avec ça.
Oui,
non,
mais c'est enfin, il va flipper si sa montre est éteinte. Il peut pas nous joindre. Il a pas de portable, ce pauvre petit.
Bah, non, il a pas de téléphone portable encore à cet âge-là. Mais... C'est la découverte du monde et de l'autonomie.
Et donc, pour l'alerte enlèvement, tout de suite, ou tu prépares attendre un petit peu?
Non, il va se débrouiller. J'irai le chercher, vous avez raison.
Oui, c'est mieux quand même.
Ou alors,
vous restez planqué. Près
de l'école. Et je le surveille.
Oui, pour voir s'il est bien autonome.
Mais je le fais tous les jours déjà. Ouais, je vais essayer. Je vais trouver une solution, mais c'est vrai que c'était bien parti. Et...
Bon, Ben H, toujours pas d'enfant?
Non, toujours pas d'enfant, mais j'ai un pote aussi, on lui a filé un bracelet pour le repérer et tout ça. Non, non, non.
Et ça s'appelle une peine de prison.
Exactement, là ils font la gueule à la prison.
Il y a Mickaël qui regarde.
Moi je suis déçu, Ben H avait dit qu'il le dirait à personne pour mon bracelet. Donc, je suis énervé quoi.
Fais gaffe, il est en train de sonner là. Ça doit être...
Bon, c'est le moment de notre jeu qui s'intitule comment, Mickaël?
Le devinez qui je suis.
Europe 1, Anne Romanoff.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités qui ont marqué l'actualité du week-end. Alors là, vous êtes très heureux, les auditeurs. Cette semaine, grâce à Europe 1, tentez de gagner le Cook Expert de Magimix.
Oula.
Une révolution dans votre cuisine, le Cook Expert, des innovations exclusives pour des plats faits maison, sains et gourmands, la Smart Induction. Mais c'est écrit comme ça, je vais pas le prononcer.
C'est écrit comme ça, mais ça se prononce pas comme ça.
Non, c'est la Smart Induction.
Smart Induction pour une cuisine précise.
On dit des plaques à induction.
Au degré près, une très grande capacité de préparation grâce à un bol inox et trois bols multifonctions. Simple, intuitif, 12 programmes automatiques, des recettes guidées, des vidéos tuto pour réaliser la cuisine du quotidien et des plats plus élaborés, des recettes 100% gratuites, une inspiration sans limite pour tous les jours. Un moteur professionnel garanti 30 ans.
Ils sont sûrs. On dirait une peine de prison américaine.
30 ans.
T'imagines, dans 30 ans, j'ai 30 83 ans. Alors,
il marche plus. Il a marché 29 ans.
Cook Expert. Bah, surtout, au bout de 30 ans, tu perds la garantie quand même.
Ça n'existera même plus, Magimix, le truc.
Cook Expert, un seul appareil pour tout réussir de l'entrée au dessert. Plus d'infos sur magimix.fr.
Garantie 30 ans.
Non mais c'est impressionnant.
C'est génial, c'est génial.
Non, mais au moins ils sont sûrs de leur coup.
Oui, mais à ce compte-là, pourquoi pas un siècle?
Ouais.
Quand tu vois que mon
sachant qu'au bout de 15 jours, t'as toujours perdu le ticket de caisse.
Quand tu vois que mon imprimante, elle fait des bruits, là je vais la changer.
Ouais, ah non, mais les imprimantes et les agrafeuses, c'est les deux seuls trucs sur Terre qui n'ont pas progressé. On peut aller sur la Lune, mais imprimer deux feuilles de suite, ils savent pas faire encore, les ingénieurs. Ça, c'est
trop compliqué.
Et surtout, dès que tu imprimes, t'as plus de cartouches, quoi.
Oui, et c'est puis vrai. Ça se bourre pour une feuille imprimée, quatre feuilles pourries. Une feuille imprimée, quatre feuilles pourries.
Franchement.
Et après, on dit, il n'y a plus de forêt. Bah oui.
Alors, on joue avec Estelle. Bonjour, Estelle.
Bonjour, Anne. Bonjour, toute l'équipe.
Bonjour,
Estelle. Vous avez 30 ans. Vous êtes assistante de direction à Soisy-sur-Seine, dans le 91. Vous avez un compagnon depuis 5 ans rencontré pendant un footing dans un parc. Alors, ça.
Qui c'est qui courait après qui?
Comment on fait pour rencontrer quelqu'un pendant un footing? Bon, déjà, moi, je ne fais pas de footing, je fais du marching. Mais...
À force de refaire des tours, de me dépasser, à chaque fois il me souriait, bonjour, ceci, un petit mot, et à la fin on marche, et vous soufflez, et là vous papotez.
Ouais, mais vous êtes tout gluant de transpiration. Mais
justement, c'est les phéromones.
Mais justement,
tout ça.
Le meilleur vient après.
Ouais, mais le mec, il était
la
par
douche.
Terre. Le mec était par terre, c'est comme pour le rattraper. Il a pris 8 tours d'avance. Quand il est arrivé, à bouche, attendez. Bonjour.
En fait, quoi?
Ça a été un échange de numéros en disant, bon, on se rappelle pour le prochain footing et autres. Finalement, on est parti prendre un verre et là, effet de surprise, on est plus gluant, on est plus rouge, on est bien habillé, coup de foudre. Wow.
Et depuis, il a arrêté de courir, lui, j'imagine.
Bah maintenant qu'il a, il a eu.
Et vous, vous continuez à courir ?
Une fois par semaine.
Bah c'est bien, il faut s'entretenir.
C'est déjà une fois de plus que Anne, quoi.
Peut-être que maintenant qu'on vous a dit que vous trouvez l'amour en courant, peut-être
non,
que...
Non, on m'a pas dit ça, on m'a dit, on m'a dit dans le travail.
Ça vous donne pas envie d'aller chez Decathlon, là, d'acheter une petite paire de godasses ?
Mais c'est marrant qu'elle n'ait pas trouvé l'amour en courant, la patronne, parce qu'en plus, elle ne court pas vite, elle est facile à...
Oui, là, il lui faudra moins d'un tour pour pouvoir discuter, c'est sûr.
C'est vrai. C'est faux, parce que j'ai fait du tapis de marche ce week-end.
Oula.
Je l'ai même des fois vu courir sur place pour laisser le temps au mec d'arriver. Tu vois.
Bon, Estelle, vous jouez avec qui ?
Jean-Philippe.
Ah. Et alors, liste 1 ou liste 2 ?
2.
Mmh. Top chrono.
Il présente le plus grand cabaret du monde sur France 2.
Patrick Sébastien.
Ok, c'est un acteur porno italien le plus connu. Oui, elle, c'est son père, il a des hôtels qui portent son nom. C'est une fille qui fait de la télé. Ouais, c'est un judoka black, grand français. Un judoka. Ouais. Elle chante je n'ai qu'une philosophie, être comme un. Ok, c'est un joueur français qui joue au Bayern de Munich. Il a une balafre sur la. Ok. Elle est ministre du droit des femmes, tout ça. Elle était chez Hanouna pour. Ok. Lui, c'est un. Il présentait avec le Morning Live. Il est black. C'est un...
Sept bonnes réponses.
Non,
c'était Magloire. Sept bonnes réponses. Bravo Estelle.
Pas mal.
Et j'ai remarqué un truc, c'est quand elle a répondu Rocco Siffredi.
Elle a mis un petit temps.
Elle a mis un petit temps parce qu'elle les a tous repassés en revue dans sa tête.
Non, non, rien à voir.
C'est pas lui, c'est pas lui.
Elle a mis un petit temps de réflexion pour montrer un peu d'élégance, pour dire que je regarde pas ça tous les jours, je cherche
oui,
un peu.
Alors
qu'elle l'avait trouvé il y a longtemps.
Bon, cette bonne réponse, c'est très bien parti, Estelle. On va voir comment se débrouille David. Bonjour David.
Bonjour Anne, bonjour l'équipe.
Vous rejouez avec nous dans un mois, du coup, comment ça se passe ?
David, vous avez 34 ans, vous êtes jardinier dans un golf, vous habitez à Lyon.
Tout à fait.
Vous occupez de l'entretien d'un golf de 70 hectares.
C'est ça, ouais, aussi grand que 70, ouais.
C'est sympa comme travail, ça.
Ça va, on est bien à l'extérieur, dans l'air, dans la nature, ouais.
David, mais vous êtes seul jardinier dans ce golf ou vous êtes plusieurs ?
Non, on est plusieurs, 70 hectares, c'est quand même énorme, hein.
Ouais, vous êtes combien ?
On est 6.
6 ?
3 trous par personne, waouh !
Mais c'est pas que les trous, c'est l'environnement dans un golf.
Il y a le green, le fairway, les
T'as
bunkers.
Déjà été dans un golf, Miguel, qui regarde ?
Mais bien sûr, comme tous les gars du 9-3, tous les week-ends, je vais à Saint-Nom-la-Bretèche. Franchement,
bah vous auriez l'âge d'aller au golf.
Bah ouais. Oui, mais j'ai pas le look. Hein. Ça, c'est... Non, le golf, non.
Mais la golf, ouais.
La golf, plutôt, ouais.
David, vous jouez au golf vous-même ?
Non, j'ai pas encore joué au golf, mais je vais mettre au practice, là, je pense, d'ici quelques années, ouais.
C'est quoi le practice ?
C'est là où on s'entraîne, là où il y a des tapis pour tirer, paf. On travaille son swing.
Attends, Jean-Phil, tu gagnes combien exactement ? Parce que
j'ai une petite augmentation.
Il a un jardin, une piscine.
Moi, je joue au golf, moi, j'aime bien.
C'est vrai ?
Beaucoup, bien sûr, oui.
Et il a raison, hein.
Où vous jouez au golf, Jean-Philippe ?
À Noisy-le-Roi, un peu partout dans les Yvelines. Il y a beaucoup de golf, on a beaucoup de chance.
On se retrouve avec les voisins en pique-nique et c'est très sympa.
Et ils se foutent de ma gueule parce que depuis 2 ans, je suis en 16e.
Moi, j'ai pas un caniche, moi.
Mais j'ai plus de caniche, mon pitbull l'a bouffé.
David, vous êtes dans une relation libre avec une copine qui habite en Allemagne ?
Ça, c'est intéressant. C'est quoi une relation libre, exactement ?
C'est-à-dire, vous la trompez, elle est d'accord ?
Les deux, voilà, on est d'accord, ouais. Et puis on se voit toujours, on se fait confiance, il y a un truc.
On se fait confiance.
Ouais, ça c'est notre façon de dire.
Jusque-là, c'est sûr qu'elle est en Allemagne, donc pour l'instant on peut rien construire, on se voit de temps à autre. Et on va pas se priver non plus, parce que relation à distance, c'est, excusez-moi, pardonnez-moi, mais c'est compliqué. Hein. Donc on essaie de trouver des solutions pour être bien tout le temps.
Donc le golf, quoi.
Ça fait combien de temps ? Vous la voyez tous les combien ?
C'est aléatoire, elle vient des fois un mois ici pour les vacances. Moi, je vais la voir, là, je l'ai vue en octobre dernier, je l'ai vue en février.
Je l'ai vue en 2002.
je l'ai vue en février, je vais la revoir là pour début de l'été. Donc, ouais, on va dire tous les 3-4 mois.
Eh ben, j'espère qu'elle est comme le Magimix, qu'elle est garantie 30 ans. Parce que...
ouais, moi, ça me plairait pas du tout, un truc comme ça.
De quoi? Une allemande?
Non. Mais non, non, un truc, une fois tous les 4 mois. Une relation libre à distance, non mais...
Mais là, vous avez une relation libre avec personne, donc c'est pas, c'est pas mieux, quoi.
Ouais, ça serait déjà un plus, oui.
Ça serait déjà un plus.
Un allemand que vous voyez une fois de temps en temps.
Un tous les 4 mois, ça serait déjà 3 fois plus que maintenant,
oh,
en fait.
Oh, mais tu nous... Arrête, hein. Vous jouez avec qui, David?
Eh bien, je vais jouer avec Christine.
Oh là là.
Yes.
Voilà. Christine qui va encore
une défaite.
Depuis
Christine,
tout à l'heure, j'ai une boule au ventre. Non, parce que je suis pas sûre.
Est-ce qu'on pourrait apporter du Lexomil et du Xanax pour Christine?
Parce que quand je perds, vous savez, David, après, je suis mal pendant 3 jours.
Surtout, elle fait des cadeaux aux gens qu'elle fait perdre. Hein, donc, oui.
C'est vrai, je me souviens, vous faites des cadeaux aux gens. Moi, j'ai un petit pour lui faire un cadeau. Après.
Ouais.
Mais si, je vais vous dire, si vous faites le mec un peu triste, elle vous envoie un Youpala, il n'y a pas de problème.
Et vous avez un enfant de quel âge, David?
Il a 2 ans.
Mais c'est pas avec l'allemande.
Il est franco-allemand.
Non, pas du tout.
Vous êtes à distance avec tout le monde, en fait. Si je comprends bien.
Il est libre avec tout le monde. Alors.
Wifi,
ah ouais, ouais.
On peut peut-être égaliser, David.
Ça
ok. Marche.
Vous êtes prêts? Okay, attention. Top chrono.
Il travaille chez nous. Il est grec. Il a présenté la Starac, The Voice.
Nikos.
Oui, c'est la chef des Miss France. Elle a été Miss France, elle aussi.
Je passe.
J'irai bien faire un tour du côté de chez Swan, c'est un chanteur, il fête ses 75 ans. Il est dans le jury de The Voice. C'est un rappeur, non.
Solar.
Bon, elle était en couple avec Daniel Auteuil, c'est Manon Desources. Elle est blonde, actrice blonde. Okay. Il est imitateur, les guignols, il a un nom d'un animal de la ferme, il y a les poules et...
Le coq.
Voilà.
Le coq.
C'est une chanteuse, elle est un peu forte, américaine, blonde, elle a fêté ses 31 ans.
Je me sens tellement mal. En même temps, avec toutes ces femmes à distance, c'est pas grave que vous n'ayez pas un cookie. Un cookie expert de Magimix.
C'est vrai que la mémoire, c'est pas top top.
Estelle, vous avez gagné. Estelle, vous avez gagné le cook. Je dois vous redire ce que vous avez gagné. Vous avez gagné le cook expert de Magimix, une révolution dans votre cuisine pour faire des plats faits maison, sains et gourmands. Le cook expert, simple et intuitif pour réaliser la cuisine du quotidien et les plats les plus élaborés, des recettes 100% gratuites, une inspiration sans limite pour tous les jours, un moteur professionnel garanti 30 ans. Cook expert, un seul appareil pour tout réussir de l'entrée au dessert. Plus d'infos sur magimix.fr. On veut un cri de joie.
Je suis trop contente, oui. Merci. Dans ma cuisine. Je suis trop pressée.
C'est beau de pouvoir réaliser les rêves des gens comme ça.
Tu vois, Christine, hein, c'est facile pourtant.
David, vous.
De rien.
David, vous rejouez avec nous d'ici un mois?
Allez, on va essayer ça.
Oh, le pauvre David.
Mais mes amitiés à toutes les femmes avec qui vous êtes en relation libre.
Je suis heureux, je vous jure. C'est cool de passer à l'antenne avec vous. On passe un bon moment.
Vous n'en voulez pas trop à Christine?
Pourquoi?
Oh, oh bah voilà, vous rejouez avec nous d'ici un mois. On vous embrasse tous les deux.
Merci.
Salut.
Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39-21, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Ben H, Mickaël Quiroga, Christine Béroux et Jean-Philippe Busini qui nous parlera du froid de ces derniers jours.
Anne Roumanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Mickaël Quiroga.
Yes.
Ben H, oh, hey, Christine Béroux, bonjour Philippe Busy.
Bonjour. Il s'est passé un truc là pendant un instant, elle a regardé Ben H et elle a cherché son nom.
C'est très gênant.
Enchantée Madame Roumanoff, ça fait juste 2 ans qu'on bosse ensemble.
Mais elle nous connaît à peine.
Elle a une absence.
Mais je suis sûr que quelqu'un lui souffle nos prénoms dans son casque en fait.
Ma parole.
Là, une députée, La République En Marche, propose 1,5 milliard d'euros d'économies grâce à la suppression de plusieurs niches fiscales des entreprises. Et vous, comment vous pourriez faire des économies pour qui vous ne regardez pas la dépense? Alors que vous devriez, Jean-Philippe.
Ah ben moi, pour faire des économies, j'ai décidé d'arrêter toutes les dépenses inutiles. Noël, la Saint-Valentin et la fête des mères.
Mickaël ?
Ah ben moi, pour faire des économies, j'y vais par étapes. Hein. Alors, d'abord, il faut que je me trouve un vrai boulot. Ouais. Alors après, je mets des sous de côté. Après, je place, ça grossit. Et après, j'investis le tout dans un projet concret.
Ça va. Et alors, c'est bien, mais vous en êtes à quelle étape là ?
Ben là, j'en suis à « faut que je trouve un vrai boulot ».
Christine ?
Moi, je fais tout le temps des économies. Je suis très sérieuse avec ça. Par exemple, ce week-end, j'ai acheté une robe à moins 20%. La semaine dernière, un sac à moins 30%. Et là, j'attends les soldes d'été pour faire encore plus d'économies. Avec toutes ces économies, je ne comprends pas pourquoi je suis tout le temps à découvert.
Moi, je suis incapable de faire des économies. Hein. Je ne sais pas gérer l'argent du tout. Je dépense et je regarde jamais.
Non, mais vous avez de l'argent de côté pour faire ça ?
Eh ben, c'est marrant parce que mon banquier m'a posé la même question la semaine dernière. Quand je lui ai expliqué ça. Non, bah, c'est ça le problème, justement.
Jean-Philippe Vizini, il a fait très froid ce week-end, ça vous déprime ?
Bah oui. La dernière fois qu'il a fait aussi froid à Paris, vous rendez compte, au mois de mai, c'était en 1945, pendant la Libération. Ils avaient froid, mais au moins, c'était la fin de la guerre, ils étaient contents. Grâce à De Gaulle, on avait sauvé l'Europe. Alors que nous, on se les caille. Et qu'est-ce qu'on a en contrepartie pour sauver l'Europe ? Nathalie Loiseau. Eh ben, Nathalie Loiseau, elle n'est pas prête d'avoir un porte-avions à son nom, là. Avec toutes les gaffes qu'elle fait, Nathalie Loiseau, elle va dans le mur. Mais il y a un de ses membres, un des membres de l'équipe de campagne de Nathalie Loiseau qui a déclaré qu'à partir de la semaine prochaine, ils vont accélérer. Ah ouais ! Bravo ! Nathalie Loiseau, elle va droit dans le mur et son équipe, ils accélèrent ! Ah non, mais je te jure, le 8 mai 45, il faisait froid, mais on pouvait descendre les Champs-Élysées dans l'euphorie de la libération. Nous, samedi dernier, on s'est promené sur les Champs-Élysées avec la voiture. On est tombé en panne. Ma femme me dit « Mets ton gilet jaune, on attend la dépanneuse. » On a une très bonne assurance. Nous, ils arrivent en 5 minutes. Eh ben, on n'a pas eu le temps de vérifier, on s'est fait charger par les CRS. Ça fait peur hein, quand tu te fais charger. Hein. La semaine dernière, vous avez vu, il y en a, ils se sont fait charger. Ils ont essayé de se réfugier comme ils ont pu à la pitié salpêtrière. Nous, avec ma femme, pareil, on s'est fait charger. On s'est engouffré dans la première boutique qu'on a pu pour aller se cacher. Bon, nous, on n'est pas allé aux urgences. Nous, on est tombé dans un salon de massage asiatique. Spécialiste dans le massage tantra naturiste. Au bout de 2 jours, ma femme qui me dit « C'est bon, les CRS, ils sont partis !» Moi, j'étais là « Ouh là là, restons encore cachés quelques jours !» On sait jamais avec Castaner aux commandes, on n'est jamais à l'abri d'une connerie, tu vois. Ce week-end, il faisait froid, et en même temps, c'était la journée mondiale du jardinage nu. Ouais, le délire, quoi. Alors, vu les températures, mon voisin... Il a voulu nous exposer sa courgette. Finalement, on a vu que son radis. Il a fait très froid ce week-end avec pas grand-chose pour se réconforter. Vivement le retour du beau temps accompagné des bonnes nouvelles.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Christine Mérou, Mickaël Quiroga, Jean-Philippe Vizini, Ben H et notre invitée Christelle Bardet pour son livre « Quand maman plantait des brosses à dents » paru aux éditions Plon.
Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe 1 avec Mickaël Quiroga, Ben H, Christine Bérou, Jean-Philippe Vizini et notre première invitée qui est directrice de communication qui vient nous délivrer un témoignage tendre et émouvant sur la maladie d'Alzheimer dans son livre « Quand maman plantait des brosses à dents », récit des 14 dernières années passées avec sa mère diagnostiquée Alzheimer à 56 ans. Applaudissez chaleureusement Christelle Bardet. Bonjour Christelle Bardet.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour.
Alors bonjour. Votre livre « Quand maman plantait des brosses à dents », c'est un témoignage sur la maladie d'Alzheimer ?
Alors pas que sur la maladie d'Alzheimer, c'est surtout le récit d'une histoire d'amour entre une maman et sa fille. Donc en fait ma maman a été diagnostiquée à l'âge de 56 ans et je raconte ces 14 années de parcours semées d'embûches, douloureux, mais aussi tendre, drôle et poétique.
Parce qu'il y a de la poésie dans la maladie d'Alzheimer aussi.
Oui, il y a un côté absurde face aux situations qui nous laissent parfois complètement perplexes. Quand on reçoit un diagnostic comme celui-là, on ne sait pas vraiment sur quoi on va tomber. On ne sait jamais comment
on a très peur.
On a très peur, évidemment, parce que c'est une maladie, le mot Alzheimer est effrayant.
Vous vous êtes retrouvé un peu en frontal, parce que vous êtes deux enfants, c'est ça, mais c'est vous qui avez tout fait.
Oui, alors tout fait, c'est un bien grand mot.
J'ai remarqué dans les familles, quand il y a une catastrophe qui arrive comme ça, il y en a toujours. Il y en a souvent un qui se tape tout le boulot.
Oui, tout le boulot, ou sacrifié, mais chacun fait aussi ce qu'il sent, voilà, avec ses moyens, sans jugement. De toute façon, c'est quand même quelque chose qui est hyper douloureux au départ, quand on se prend un diagnostic comme celui-là. Là, toute la projection qu'on se faisait d'un avenir, d'une vieillesse, d'une grand-mère à venir est complètement pulvérisée. Et surtout, à 56 ans, on se dit combien de temps est-ce que cela va durer, comment cela va se passer. On ne délivre pas une caisse à outils à la personne pour savoir comment s'organiser, comment les choses vont se passer. Et ça laisse la place à l'improvisation parfois, mais on a des situations qui sont souvent un peu délirantes.
Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux gens, aux familles confrontées à ce diagnostic ?
Alors déjà, de ne pas rester seul, d'essayer quand même de se renseigner au maximum, ne serait-ce que par des associations. Moi, c'est vrai que c'est l'association France Alzheimer qui m'a donné beaucoup de clés pour comprendre, appréhender et avoir des manières de s'organiser, ne serait-ce qu'administrativement parlant ou sur les visites d'accueil de jour, ensuite des institutions, parce que voilà, il n'y a pas de recueil et on n'a pas un manuel, on n'a pas un mode d'emploi malheureusement.
Il faut faire au jour le jour, quoi.
Au jour le jour. Absolument.
Et vous êtes sortie grandie de cette expérience, Christelle Bardet ? Vous dites que ça a été une expérience de vie très forte quand même.
Oui, ça a été très fort. Quand je regarde le chemin parcouru, c'est plus des moments tendres et des moments de bonheur qui restent malgré la maladie et toutes les choses cruelles qu'on a pu vivre.
Vous racontez qu'à un moment, vous avez emmené votre maman faire un dernier bain de mer à Cannes. C'était important, ça ?
Oui, d'abord, c'était à Saint-Tropez, c'est juste à côté. C'est important, c'était surtout un beau moment parce que je pensais que c'était impossible. Et c'est avec la complicité d'une auxiliaire de vie, parce que voilà, cette petite Nabila qu'on a rencontrée et qui a été une petite fée clochette dans la vie de ma mère, m'a permis de rendre ce rêve possible.
C'est-à-dire vous êtes partie de l'EHPAD, vous êtes partie.
Absolument, on est parti.
Vous avez fait une fugue.
Pratiquement, parce que le médecin de la structure était contre, en me disant vous savez, votre maman peut décéder. Un truc qui m'avait jamais traversé l'esprit, par exemple. Et donc, on s'est organisé, on l'a mise dans la voiture, on a loué tout le matériel, lit médicalisé, fauteuil, etc. Parce qu'elle était quand même pratiquement dans un état grabataire, elle faisait une trentaine de kilos. Et je pensais que c'était impossible de faire ça, et on l'a fait. C'était un moment merveilleux, parce qu'elle nous a fait toute la semaine des cadeaux, des regards, et des moments de bien-être et de bonheur. Et c'était formidable.
Donc ça, c'est... Et après, elle est décédée peu de temps après,
Un an après, oui.
Ouais.
Une petite année. Ça a été une expérience de vie absolument, absolument fabuleuse. J'avais d'ailleurs pris une petite caméra. J'ai filmé ces moments. Et quand je regarde les images, c'est vraiment des moments de bonheur.
Donc vous expliquez aussi qu'on peut communiquer. Au contraire, il faut communiquer énormément avec les personnes qui ont Alzheimer.
Oui, c'est
une autre forme de communication.
Ça passe autrement que par les mots. Ça peut passer par des caresses, par des odeurs aussi, par la voix, par la musique et parfois par un simple regard.
Et alors, vous dites, le livre s'intitule « Quand maman plantait des brosses à dents » parce que votre maman avait un balcon avec des fleurs et à un moment, elle s'est mise à cultiver des brosses à dents.
Absolument. Un matin, j'arrive et je la vois sur son balcon avec de mystérieuses fleurs qui étaient apparues. Et évidemment, quand j'ai constaté cette scène-là, la première réaction, ça a été de les enlever. Elle lui dit « Enfin, c'est ridicule, tu vas pas planter des brosses à dents, enfin, ça ne rime à rien. » Et le lendemain, elle réapparaissait. Et je me suis rendu compte qu'elle prenait du plaisir. Elle était détendue à faire ça chaque matin, avec une spatule en bois dans une main, un pot d'eau dans l'autre. Et elle s'occupait de son jardin et elle parlait à ses brosses à dents comme elle le faisait jadis à ses plantes grasses.
Et donc, fallait la laisser faire ça ?
Fallait laisser faire, c'était joli à regarder. C'est pas parce que nous, on a décidé que des brosses à dents, ça se plantait pas.
Ça vous a rendu plus tolérante, Christelle Bardet, cette expérience ?
Oui, ça m'a rendu plus tolérante sur déjà le regard qu'on a vis-à-vis de nos malades. Parfois, il y a des choses où on doit accepter de lâcher prise, des verrous qui doivent sauter. Et puis d'arrêter de se juger les uns les autres, parce qu'on est tous victimes de la maladie. Les familles, mais même aussi le personnel soignant, enfin le système. Tout le monde est quand même un peu victime de et c'est important d'avoir un peu plus de bienveillance les uns envers les autres.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée Christelle Bardet, venue nous parler de son livre « Quand maman plantait des brosses à dents » qui vient de sortir aux éditions Plon. Ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Mickaël Quiroga, Ben H, Christine Béroux, Jean-Philippe Vizini et notre invitée Christelle Bardet venue nous parler de son livre « Quand maman plantait des brosses à dents » qui vient de sortir aux éditions Plon. C'était important pour vous de témoigner sur cette maladie de votre mère que vous avez vécue pendant 14 ans, Christelle Bardet ?
Alors au départ, pas particulièrement. Je n'avais pas une velléité d'écriture ou je n'avais pas un message. Voilà, je ne pensais pas porter un drapeau comme celui-là. Et puis ça s'est un peu imposé tout seul. J'avais mis en place au départ entre les infirmières, les auxiliaires de vie et moi-même, on avait mis un petit cahier de relève en place, parce qu'à l'époque on communiquait pas par SMS. Et donc ce cahier de relève que j'avais appelé le cahier des fées, on échangeait sur le quotidien de ma maman, ça nous permettait de rester en lien. Et quand il a fallu que je débarrasse l'appartement de ma maman, quand on l'a placé, j'ai retrouvé ce cahier et j'ai relu 3 ans d'échanges entre nous, et je suis repassée à peu près par tous les étages de l'ascenseur émotionnel qu'on avait pris tout au long de ces années-là, entre la tristesse, parfois le désarroi concernant des situations qui nous échappaient, des moments hyper drôles. Et je me suis dit, c'est quand même fou que je ne partage pas ces moments-là. Et donc là, ça s'est mis en place tranquillement. Et puis j'ai une de mes amies, Valérie Expert, pour ne pas la nommer, qui m'a vraiment poussée en disant, il faut absolument que tu écrives, il faut que tu t'y mettes. Et puis tu sais quoi, je t'ai pris rendez-vous avec un éditeur. Et on a démarré comme ça.
Et il y a de l'espoir avec tout ça. Il y a aussi de l'espoir de se dire que ça peut aller mieux, que ça peut... Parce que c'est sur beaucoup d'années quand même.
C'est beaucoup d'années. C'est un marathon. Un marathon. Et puis surtout, ce qui est effrayant, c'est qu'on n'a pas de traitement. Aujourd'hui, on sait un petit peu la ralentir. Mais bon, c'est vraiment des prémices. Et on
comment
sait
vous avez fait,
pas.
Christelle Bardet, pour aussi une vie professionnelle intense avec... être aidant d'une maman
Il faut s'organiser, ça demande beaucoup d'énergie. J'avais la chance à l'époque de pouvoir exercer un métier dans lequel je pouvais organiser mon temps, mon emploi du temps. Et puis on fait appel toujours à l'improvisation, donc jusqu'au moment où c'est plus possible. Parce que voilà, une des clés aussi, c'est de savoir connaître et reconnaître ses limites. Parce que parfois, une prise en charge ou un maintien à domicile... contre tout, ça peut être contre-productif, en fait. Donc, savoir aussi où sont ses propres limites et savoir s'arrêter.
Il y a un moment où vous avez failli tomber malade vous-même. Vous dites souvent que les aidants disparaissent avant les aidés.
Oui, alors souvent les conjoints, parce qu'on n'a pas tous, les mêmes ressources, on n'a pas tous la même énergie, on n'a pas tous les mêmes moyens. Voilà. Alors moi, j'ai eu la chance à cette époque d'être jeune. Voilà, d'avoir une énergie, un peu de relation et d'avoir pris cette aventure à bras-le-corps et d'y être vraiment allé. Mais il y a des gens qui tombent vraiment malades. C'est très compliqué parce que c'est une maladie qui est épuisante, qui est chronophage, qui demande... Tous les schémas familiaux sont chamboulés. Enfin, voilà, c'est toute une famille et tout un environnement qui est chamboulé.
C'est un nouvel équilibre familial à retrouver.
Oui, et puis une nouvelle vie à s'inventer.
Ben H a des choses à vous dire, Christelle Bardet.
Oui, un témoignage très fort que le vôtre, Christelle Bardet. Nombre de familles sont aujourd'hui touchées par le sujet, nombre de familles qui passent subitement du rôle de fille, de frère, de conjoint au rôle d'aidant. Par la force des choses, par amour, par devoir ou simplement parce que c'est comme ça. Hein, les aidants ont un rôle déterminant et pas reconnu, si ce n'est par les malades eux-mêmes. Oui, nombre de familles sont confrontées, vous disais-je, et la mienne n'y fait pas exception. Votre histoire d'aidante auprès de votre maman fait écho de loin à la mienne. En effet, quelques concours de circonstances ont fait qu'à l'âge de 16 ans, j'ai dû partir vivre chez mon arrière-grand-mère, à l'époque âgée de 88 ans. 88 ans, ça commence à faire du kilomètre. Elle a connu Paris sans voiture, le Troisième Reich, mai 68, David Douillet ministre. Je pouvais parfaitement comprendre que tout ne tourne pas rond sous le capot. Un trou de mémoire, perte d'objets, difficultés dans un contexte social. En termes de symptômes, on était clairement sur une phase 3 d'Alzheimer. Et moi, je n'ai rien vu. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à l'époque, sous l'effet des stupéfiants, j'avais moi-même un équivalent d'Alzheimer phase 4. Je ne savais pas ce que j'avais fait la veille. J'étais incapable de planifier quoi que ce soit. Je pouvais me nourrir uniquement de tartines de beurre. Sans pain, et réalisé seulement le lendemain que ce n'était donc que du beurre, je n'étais plus moi-même, plus en phase avec la réalité, comme décroché du monde. Aucune mémoire immédiate, un discours souvent incohérent, plus de mémoire, des prénoms, que dalle. Pour parler en termes médicaux, j'étais complètement défoncé. Je dis bien j'étais. C'est là que mon arrière-grand-mère, âgée de 88 ans, endossait le rôle d'aidante auprès de ma personne. Tout ne tournait peut-être plus rond sous le capot, et alors que sa maladie commençait à lui grignoter son passé, elle tâchait à ce que mon divertissement ne grignote jamais mon futur. Elle était là, présente, même quand elle était absente. Et puis un soir, elle a appelé mon père, terrorisée, pour dire que je n'étais pas rentré pour dîner. Ce soir-là, j'avais déménagé depuis déjà près de 6 mois. Cette chronique, c'était pas ma plus drôle, c'était juste un témoignage comme le vôtre et une pensée pour celle sans qui je ne serais peut-être pas là. Merci mamie.
Bon, on va tous pleurer.
Pardon.
Vous avez eu des témoignages, Christelle Bardet, des réactions à votre livre ?
Oui, beaucoup. Je reçois beaucoup de messages de gens voilà, que je ne connais pas, qui m'adressent des petits mots par les réseaux sociaux, des courriers aussi. Et j'avoue que je suis extrêmement touchée parce que voilà, on sent que ça porte un écho et mon témoignage, il y a une espèce d'universalité dans les rapports humains et dans l'accompagnement. Après, ce n'est pas que l'Alzheimer en soi. Tous les gens qui accompagnent des personnes en situation de handicap ou dans les maladies retrouvent aussi cette force d'amour qui peut aussi nous animer.
Donc le conseil de tous les gens confrontés à cette maladie, ce serait quoi si
vous aviez de pas rester seul, d'essayer voilà, d'aller voir ces associations et puis de savoir s'écouter, d'être créatif et d'essayer parfois aussi de voir sous le prisme du rire et de l'humour parce qu'on n'en manque pas dans ce genre de parcours.
Merci Christelle Bardet de passer nous voir. On rappelle votre livre « Quand maman plantait des bosses à dents » qui vient de sortir aux éditions Plon. Merci beaucoup, Christelle Bardet. Dans quelques instants, c'est Kev Adams qui sera notre invité. Ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe 1 avec Mickaël Quiroga, Ben Hache, Christine Mérou, Jean-Philippe Bizini et notre invité qui n'a que 27 ans mais il est humoriste, comédien depuis déjà 10 ans. Il a des millions de fans sur Twitter, Facebook et Instagram. Cette année, il fête les 10 ans d'une carrière sans faute entre grand écran, petit écran et zénith plein à craquer. L'éternel ado est devenu le presque trentenaire. On ne le remercie pas pour le coup de vieux, mais on le remercie d'être là. Il vient nous présenter son nouveau spectacle, soi-disant. Kev Adams est avec nous ce matin sur Europe 1.
Merci beaucoup.
Bonjour Kev Adams.
Bah bonjour.
Alors vous fêtez vos 10 ans de carrière, mais vous avez commencé à 6 ans.
C'est vrai que ça paraît un petit peu improbable quand c'est dit comme ça, mais c'est aussi parce que ça m'a paru improbable que je me suis dit ce serait intéressant de marquer le coup.
Vous allez jouer donc dans toutes les salles, vous avez joué depuis que vous avez débuté, c'est ça ?
Exactement, c'est ça.
Vous allez commencer dans le salon de votre famille, comment ça va se passer ?
Je commence au petit Palais des Glaces, pour le coup, qui est vraiment une salle où j'ai vraiment joué il y a 10 ans. Donc
il y avait le Pronzo aussi, vous avez démarré, mais qui n'existe plus.
Exactement, mais qui n'existe plus,
vous
malheureusement.
Vous avez joué sur le trottoir ?
Qui était une scène ouverte fantastique en face du Jamel Comedy Club et qui malheureusement a disparu depuis. Mais si ça existait toujours, j'aurais complètement été joué là-bas, ouais, carrément.
Et alors, vous serez le 24 octobre au Casino de Paris, le 25 octobre à l'Olympia, le 26 octobre au Zénith. Vous faites en 3 jours ce que beaucoup d'artistes n'arrivent même pas à faire en un an. Vous n'avez pas peur de susciter des jalousies ? Vous en suscitez déjà, Kev Adams ?
Je me fais un peu défoncer depuis 10 ans, ouais, donc à un moment donné...
Comment vous expliquez ça ?
Il y a plein de raisons. Je crois pas que... Franchement, je cherche plus trop à l'expliquer, pour être très honnête. En fait, il y a deux manières de voir les choses. Soit tu te concentres sur les gens qui te critiquent, et je pense qu'il y en aura toujours. Soit tu te concentres sur les gens qui t'aiment bien et sur les gens qui sont objectifs sur ton travail. Et c'est ce que j'essaye de faire. Franchement, à un moment donné, ça sert à rien de s'acharner à vouloir écouter tous les gens. Il y a un moment donné, il y a un truc que j'ai compris il y a quelques temps. Il n'y a pas si longtemps, mais il y a quelques temps, qui est que tu ne peux pas de toute façon plaire à tout le monde. Donc déjà, si tu plais à plein de gens, c'est déjà cool, c'est déjà bien.
Pendant des années, Kev Adams, vous avez été considéré comme l'humoriste des ados, vous avez toujours le même public, et votre projet pour durer, c'est devenir l'humoriste des seniors. Votre public a mûri, ou vous avez mûri grâce à vous, vous avez mûri grâce à votre public.
Je ne sais pas.
Personne n'a mûri ou...
Je ne sais pas vraiment, pour être très honnête, je me suis jamais vraiment posé la question de à qui je m'adresse, et quand j'étais jeune, c'était assez naturel, effectivement. Aujourd'hui, j'essaie de vraiment d'écrire sur des trucs qui me touchent, des trucs dont j'ai envie de parler, sans me demander qui ça va toucher, les plus jeunes, les moins jeunes, sans me demander si ça va peut-être éloigner des plus jeunes ou attirer. Enfin, je suis pas trop dans ces calculs-là, quoi. On n'est pas là on fait pas un test produit pour des gens. Enfin, je sais pas, c'est bizarre.
Vous faites ce que vous sentez.
Ouais, c'est ça. Quand tu fais une vanne et que t'es avec tes potes, tu te dis pas celle-là, elle va plaire à lui, mais pas à lui. Et puis lui, il va peut-être être énervé.
Si je peux me permettre, on a reçu Nawal Madani ici il y a quelque temps. D'accord. Et elle nous a dit qu'elle vous avait vu jouer en anglais.
Exact.
Et que vous abordiez des sujets que vous n'abordiez pas en français. Pourquoi ? Vous avez 2 heures.
Ah bah c'est... et bah c'est surprenant parce qu'effectivement, elle m'a vu en anglais jouer et je jouais un extrait du spectacle que je joue en français en ce moment.
En fait, ah elle n'a pas vu le nouveau spectacle.
Je pense qu'elle n'a pas, voilà, pas vu le nouveau spectacle en français.
Et c'est important pour vous de jouer en anglais, de vous tester un public qui ne vous connaît pas comme ça?
Ouais, c'est important de jouer en anglais, comme ce serait marrant de jouer en espagnol, comme ce serait trop drôle de jouer en arabe ou en chinois. Moi, j'aimerais bien, je trouve ça stylé.
Ça donne
en fait,
quoi, Kev Adams en anglais?
C'est franchement scolaire.
C'est-à-dire
que je suis pas fluide et tout ça, j'apprends par cœur des phrases en quasiment phonétique.
Vous dites quoi en arrivant sur scène? Hello everybody,
my name is Kevin Adams, I'm French, tu vois. Ouais.
Et les gens rigolent.
Et les gens, ils rigolent pas toujours. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est un exercice qui est top, parce que d'un coup, tu arrives là-bas et tu portes rien avec toi. Ici, quand je vais dans les scènes ouvertes, je porte quelque chose avec moi naturellement. Il y a des gens qui me regardent et qui disent « Ah, oh, trop bien, il y a lui !» Ou il y a des gens qui me regardent et qui disent « Oh non, putain, pas lui !» Et du coup, je me dis « C'est intéressant d'aller dans un endroit où, au contraire, personne n'a d'a priori. Les gens, ils te regardent et ils disent « Est-ce qu'il est marrant ? Est-ce qu'il n'est pas marrant ?» Point. Et j'aime bien travailler comme ça.
Vous avez fait un truc, c'est l'année dernière, je crois, au Fil, qui est une scène ouverte parisienne. Vous êtes venu totalement grimé. Enfin, personne ne savait que c'était Kev Adams. Et vous
Exactement.
Avez fait un sketch où vous défonciez Kev Adams.
C'est ce que j'ai fait,
ouais. C'était là, pour le coup, ça repart à zéro aussi. Enfin, tu te mets dans cette condition-là.
Ouais, alors pareil, on m'en a beaucoup parlé, genre on m'a beaucoup dit c'est un nouveau départ et tout.
Moi, non, je l'ai mais vraiment en fait. Tu t'es mis dans cette position
c'est de... drôle parce que moi, je l'ai vraiment fait en mode c'est Rama, justement suite aux critiques.
Rama, quoi, marrant.
C'est marrant, oui, pardon. Anne, j'ai oublié que vous étiez là.
Vous oubliez que j'étais vieille.
C'est rigolo.
J'ai
parce
53
que...
ans, moi.
C'est pour ça.
Deux carrières.
J'ai trouvé que effectivement, je lisais beaucoup de critiques et puis surtout, j'ai entendu une ou deux fois que des humoristes aussi parlaient de moi dans les spectacles. Et du coup, je me disais, peut-être qu'il serait temps que quelqu'un le fasse de manière vraiment drôle, quoi. Mais vraiment, il y a tellement de trucs pour me défoncer
la
tronche.
C'était quoi, alors en fait, nous, un extrait de cette... Vous vous rappelez ou pas?
Je me rappelle plus de tout le sketch, non. Mais en gros, on a créé ce personnage un peu...
C'était un humoriste anonyme.
Un humoriste un peu énervé, un peu révolté.
On vous a
quoi.
Pas reconnu, quoi.
Et sa nièce était fan de Kev Adams, voilà. Et lui, il comprenait pas. Quoi.
Et lui, il comprenait pas. Et il trouve que c'est vraiment ce qui se fait de pire sur cette planète, quoi. Et ce qui était génial, c'est que j'ai été jouer ce sketch au Field et que je me suis déguisé avant d'arriver sur scène et qu'il y avait d'autres humoristes du coup qui étaient là ce soir-là. Et ils m'ont dit, tu vas faire un sketch sur quoi? Et moi, j'étais déjà dans le truc. Je leur ai dit, je vais pas avec Kev Adams, c'est enculé. Et ce qui est plutôt drôle, c'est que la plupart d'entre eux ont dit, c'est top, vas-y, déchire-le bien, ça va être top, ça va être super.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Kev Adams, venu parler de son nouveau spectacle, soi-disant, qui sera à Paris du 22 au 26 octobre. Il y a une grande tournée dans toute la France. On vous donnera les dates après la pub, ne bougez pas.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Mickaël Quiroga, Ben H, Christine Bérou, Jean-Philippe Vizini et notre invité Kev Adams, venu parler de son dernier spectacle, soi-disant, à Paris du 22 au 26 octobre. Il y a une tournée dans toute la France. Après-demain, 8 mai, Vichy, 9 mai, à Bourges, 10 mai, à Tours, 11 mai, Bressuire, 12 mai, Fougères, 15 mai, Monaco, 16 mai, Salon de Provence, 17 mai, la Grande Motte, 19 mai, Ajaccio, 22 mai, Pontarlier.
Même moi, je ne savais pas.
23 mai, Annecy, 24 mai, Dole, 25 mai, Strasbourg. Vous êtes un staccanoviste du travail, Kev Adams.
En tout cas, c'est des métiers qu'on aime bien faire, hein, de toute façon, sinon on ne le ferait pas. Donc moi, j'adore être sur scène et effectivement, la tournée de cette année est très dense.
Kev Adams, votre père est négociateur immobilier, votre mère travaille dans la finance. Et d'où vient alors ce sens des artistiques? Parce que le sens des affaires...
Ma mère ne travaille plus dans la finance. Elle travaille pour BNP Paribas. Ça me fait rire quand les gens ils disent elle travaille dans la finance. Travaille pour BNP Paribas, elle ne travaille plus depuis quelques années. Maintenant, elle travaille effectivement avec moi et c'est une grande fierté.
Vous étiez très proche de votre grand-père, Kev Adams, c'est ce qui vous a...
Exactement. Et c'est, j'en parle dans ce spectacle-là pour le coup. J'avais envie d'en parler. J'étais très très proche de ce monsieur qui était un homme de spectacle, qui est quelqu'un qui est né en Tunisie et qui a émigré en France et pour qui la France était un Eldorado et qui a amené avec lui aussi une culture merveilleuse de joie, de fête, de musique. Une envie de spectacle, quoi.
Il est mort quand vous aviez 13 ans.
Il est mort quand j'étais jeune.
Il avait très confiance en vous, il vous soutenait, il croyait en vous.
Exactement, ouais, c'est quelqu'un qui a cru en ce rêve un peu fou assez tôt, alors qu'effectivement, dans ma famille, il n'y avait pas grand monde qui connaissait le monde du spectacle, en fait.
Vous étiez un fan, C'est-à-dire vous attendiez les artistes à la sortie des spectacles.
Exactement.
Dans la rue. Ouais. Vous aviez même un mur chez vous tapissé de photos d'artistes.
Exactement.
Et donc maintenant, quand les gens vous attendent...
Vous étiez dessus, Anne, d'ailleurs, sur ce mur.
Quand les gens vous attendent, vous leur donnez des autographes, toujours?
Bah évidemment, ou... bien sûr.
Alors vous racontez aussi que vous avez fait l'amour assez tard, à 18 ans et demi?
Non, à 17 ans. Ouais. Vous aviez... C'est tard quand même, 17 ans.
Ouais, si,
c'est la moyenne.
Ah ouais, c'est la moyenne. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression
non,
que de plus en plus, c'est de plus en plus jeune.
C'est 17 ans pour un homme.
C'est 17.
Ah bon, c'est combien pour une fille?
Pour une fille, je sais pas.
Ça dépend.
Je sais que c'est 17 ans pour un homme, parce que moi aussi 17 ans, et je crois que j'étais un peu à la bourre, et puis en fait j'ai regardé les stats. Et,
ouais, mais c'est une moyenne. Ouais, 17 ans. C'est une moyenne, ça veut dire qu'il y en a, c'est à 13 ans, et d'autres c'est à 25.
C'est ça. D'ailleurs, fun fact, à 17 ans, c'est l'année où j'ai fait l'amour, et c'est l'année où j'ai rencontré Michael Quiroga également.
Ah oui, alors,
est-ce qu'il y a un lien?
Ça n'a pas de lien.
Faut mettre une virgule dans la phrase.
Voilà, c'est important de mettre des virgules.
Est-ce que Michael Quiroga vous a aidé dans votre carrière?
Énormément, bien sûr.
C'est vrai?
Ouais, bien sûr, c'est un auteur brillant. Et puis au-delà d'être un auteur brillant, c'est un moment dans ma vie où j'avais besoin de confiance, j'avais besoin que des gens croient à ça. Quand vous êtes seul tout, quand vous avez 17 ans, vous vous dites « Ouais, vas-y, j'ai envie de faire ce métier. » T'as besoin de gens. Michael, c'est une encyclopédie de ce métier. Il a vu à peu près tout ce qui se fait en humour, que ce soit en France ou à l'international. Moi, c'est le premier mec qui m'a dit « Mais non, mais tu peux pas faire cette blague. » Et je lui dis « Pourquoi quelqu'un l'a déjà fait ?» Il m'a dit « Non, mais c'est de la merde.
» Alors, vous dites aussi qu'en 2009, vous êtes arrivé en demi-finale du concours Paris-Fils à Comédie. Vous êtes repéré par Anne Romanoff. Faites comme si c'était pas moi. Elle est sympa, Anne Romanoff.
C'est fou quand même, Anne. On peut revenir sur ce truc que tout le monde dit partout et que j'ai arrêté de corriger avec le temps parce que c'est quand même incroyable, cette histoire. Parce qu'il faut préciser quelle est la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que vous avez travaillé avant moi avec quelqu'un qui s'appelle Elisa. Et qui effectivement m'a vu à ce concours et vous en a parlé très rapidement. C'est ça la vraie histoire. Et très rapidement, vous avez décidé de faire confiance à cette Elisa.
Bah, c'est-à-dire qu'elle m'a tellement tannée.
Elle vous a saoulé, quoi.
Ah oui. À un moment, elle m'a dit c'est un mec, il est génial, il est nanin. J'ai dit bon, allez, ok, vas-y.
Et vous avez accueilli ce jeune homme de 17 ans à l'Olympia, alors que j'avais rien fait avant, à part des scènes ouvertes au Pranzo, quoi. C'est vrai que ça a été un moment très très important. Ton gala, Anne, hein, je vais pas te vous voyez, je te tutoie dans la vie. Donc ton gala, ça a été un moment très très important qui a été déclencheur, puisque c'est la première fois que je passe à la télé avec mon sketch, c'est la première fois que je joue ce fameux sketch de l'ado avec le pantalon et tout ça. Et c'est vrai que ça a été le premier lancement pour moi, quoi, clairement.
Alors vous dites que c'est la première personne, en parlant de moi, hein, qui m'a pris sous son aile. Au début, elle était assez autoritaire avec moi, un peu comme une prof, je lui dois énormément. Alors moi, je ne suis pas du tout autoritaire.
Oh là là.
Je voudrais vous témoigner.
Vous pouvez le répéter, c'est pour mon avocat.
Ah, vous pouvez témoigner.
Je peux témoigner que vous êtes très très autoritaire, on va pas se mentir.
Une crème.
Alors Kev Adams, de 2010...
Est-ce que tu te rappelles, Anne, de ce que tu m'as dit? Parce que moi, je m'en rappellerai toute ma vie. Quand je t'ai ramené mon sketch pour l'Olympia, est-ce que tu te rappelles?
Non, du tout.
Tu m'as dit, est-ce que tu as le texte de ce sketch? Et j'ai dit, en fait, non, parce que moi, j'ai les cues dans la tête. Tu m'as dit, est-ce que tu as le texte de ce sketch? Et je t'ai dit, non. Et tu m'as dit, amène-moi, s'il te plaît, le texte de ce sketch. Et moi, j'avais jamais écrit mot à mot ce sketch. Tu sais, des fois, tu as un sketch, tu l'as en tête, et puis tu changes des petits trucs dans ta tête. Donc, je suis rentré, j'ai écrit tout le sketch, et je te l'ai amené le lendemain. Et le lendemain, tu as été hyper efficace, parce que, en gros, je dis à Elisa, c'est bon, je peux le faire le gala. Et Elisa m'avait dit, écoute, c'est Anne qui décide, c'est son gala. Elle n'a pas dit non, mais elle n'a pas dit oui. Donc amène tes textes et on va voir. Et donc j'amène mes textes et je me rappelle très bien. T'as pris mes textes comme ça, t'as dit ça non, le reste.
Elle
n'a
pas changé. Hein.
Et moi je me disais, le reste, ok, du coup, le reste, oui, le reste, c'est bon. Et je t'avais dit, du coup, et tu m'as dit, le reste, c'est bon, le reste, c'est bon. Allez, on y va, on reprend la répétition. Et hop, tout le monde a été reparti en répète. Et je m'étais dit, c'est ouf, parce que moi, cette acceptation de c'est bon, tu peux jouer dans le gala, je l'attendais avec les jambes qui tremblent. Et pour toi, c'était, donc toujours dans le travail. Et puis après, j'ai travaillé. J'ai eu l'honneur de faire tes premières parties au Bouffe Parisien, et là c'était aussi, je te rappelle du jour où je suis arrivé un tout petit peu en retard et tu m'as dit on n'arrive pas en retard.
On n'arrive pas en retard.
Quand on est en retard ici, on chope une amende.
C'est 100 euros.
C'est un truc de fou.
Et alors récemment, vous avez carrément tourné avec la star américaine Mila Kunis, c'était comment?
C'était très agréable.
Ouais.
Ah ouais. C'était super, c'était incroyable de vivre une expérience sur un plateau de tournage.
C'est quoi la différence avec les plateaux français?
Oh, c'est la bouffe, ils ont tellement de bouffe
déjà.
Non, mais ils ont vraiment énormément de bouffe, quoi. J'étais choqué par le montant de bouffe.
Ah bah là-bas, le budget bouffe, c'est le budget film ici.
C'est vraiment ça. Bah t'arrives le matin sur le plateau, il y a le buffet du meilleur hôtel où t'as été dans ta vie. avec tous des omelettes, 14 chefs qui font les trucs, tous les fruits du monde, tous les cornflakes que je connaissais pas. Mais là, c'est le matin.
Et alors matin, qu'ici, on a un verre d'eau, c'est pour l'inviter.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Kev Adams. Je vais nous parler de mon spectacle Soit 10 ans qui sera à Paris du 22 au 26 octobre 2019 et avant ça une grande tournée dans toute la France. 7 juin à Nantes, 8 juin à Angers, 12 juin Limoges, 13 juin Montluçon, 14 juin Bourg-en-Bresse, 15 juin Lyon en Vendée, 16 juin Divonne-les-Bains, 19 juin Aix-les-Bains, 20 juin Voiron, 21 juin Genève, 22 juin Lausanne, 27 septembre à Troyes. Ne bougez pas, en revient.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Mickaël Quiroga, Ben H, Christine Bérou, Jean-Philippe Vizini et notre invité Kev Adams. Vous avez beaucoup, dans votre jeunesse, travaillé avec Mickaël Quiroga et lui a des choses à vous dire du coup.
Ah. Alors. C'est... Qu'est-ce qui se passe?
Donc, monsieur Kev Adams, bonjour.
Bonjour, Mickaël.
Ravi de vous rencontrer. Parce qu'on doit vivoyer les gens ici. Voilà. Alors, vous êtes un humoriste, alors un des humoristes les plus connus de l'Hexagone et même de la francophonie, hein, grâce au sketch, bien sûr. Mais pas seulement, on peut dire aussi que c'est un peu grâce à cette coiffure hein, qui en a fait l'ami des petits et des grands et des porcs épiques. Donc, Kev, c'est le diminutif de Kevin. Votre maman vous aurait prénommé ainsi en raison du culte hein, qu'elle vouait à Kevin Costner.
C'est exact.
Le héros de Bodyguard. Alors, Kevin, hein, c'est un prénom qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis, en Angleterre et au Salon du Tuning.
Enfoiré, c'est tellement vrai.
Votre nouveau spectacle s'intitule Soit 10 ans, dans lequel vous revenez sur vos 10 années de scène et sur les rumeurs vous concernant tous les soit 10 ans, comme genre soit 10 ans, il aurait séduit Miss Univers. Alors ça, quand ils y pensent, il y en a, ça les énerve vraiment, mais beaucoup. Mais franchement, moi par exemple, j'y pense pas. Hein.
Ah bon, ça vous énerve pas, Mickaël?
Ah si, carrément, c'est justement pour ça que j'y pense pas. Mais j'avoue que l'une des rumeurs qui mérite le plus à propos de Kev, c'est lorsqu'on met en doute votre culture. Donc je propose tout simplement de démentir tout ça par le truchement d'un petit questionnaire.
Avec plaisir.
Donc Kev, vous êtes souvent à Los Angeles, hein, je propose un petit test en anglais très simple. Vous êtes né un 1er juillet et justement c'est aussi le 1er juillet qu'est né le signal de détresse SOS qui est l'acronyme de Save Our Souls. Que l'on va demander à Kev Adams de bien vouloir nous traduire, Kev.
Sauver nos âmes, tout simplement.
Exactement, sauver nos âmes, ce qui m'a toujours étonné, hein, parce que quand t'es en perdition, tu veux peut-être qu'on sauve ton âme, mais tu préférais quand même qu'on sauve ton cul. Hein. Mais bon, ben, bon, l'anglais c'est vu. La prochaine question se présente sous la forme d'un petit QCM. Tout le monde sait que Kev a commencé à écrire ses propres sketchs dans un cahier de cours d'histoire-géographie. Je vous propose donc de poursuivre par l'histoire. Ce mois-ci, le 14 mai, nous commémorerons l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac. En quelle année a-t-il été assassiné? En moins 50 avant Jésus-Christ?
Non.
En 1610 après Jésus-Christ? Ou l'année dernière? On souffle pas dans le public, on ne souffle pas, même ceux qui y étaient. Kev?
En 1610, bien sûr.
Bonne réponse, bien sûr. Hein. Bon, ben, l'histoire s'est vue, Kev Adams, en 2009, vous avez décroché un bac littéraire. Donc, c'est le moment de tester la philo. L'année de votre diplôme, l'un des sujets proposés était un texte de Schopenhauer sur le désir. Alors, bien sûr, on connaît tous Schopenhauer, hein, l'auteur de Le Monde comme volonté et comme représentation. On sait également que Schopenhauer est né à Danzig, en Pologne, qu'en 98, la ville a été rebaptisée Gdansk. Donc, voici ma question de philo qui est très simple. En quelle division évolue l'équipe de football de Gdansk? Franchement, c'est une question simple. J'aurais pu être plus vache. Hein, genre, comment s'écrit Schopenhauer?
Ah oui, ça s'écrit comment, Mickaël?
Bon, S-H-O. Bon, de toute façon, c'est pas moi le sujet. Le sujet, c'est Kev Adams. C'est, je crois, que la première fête que le garçon est bon, bien que très moyen en philo, il a du chou, comme on dit vulgairement, et pas seulement un chou sur la tête. Vous qui avez été, comme vous l'avez dit, un peu bouboule, vous avez réussi à séduire Miss Univers. Franchement, si tous les mecs un peu rondouillards réalisent qu'en maigrissant, ils ont une chance avec une Miss, c'est plus des places de spectacle que vous allez vendre, c'est un régime. Je me souviens que sur votre t-shirt, au début, il y avait écrit « J'aime Kev Adams ». Si vous vendez votre régime, vous pourrez l'appeler « Comme j'aime Kev Adams ». C'est con, je sais. Et ça ne m'étonnerait pas parce que même ses détracteurs sont bien obligés de reconnaître que le parcours du jeune homme et sa réussite sont exceptionnels. Donc pour faire le bilan avec Kev Adams, rendez-vous sur scène. Vous allez jouer toute une semaine dans toutes les salles qui vous ont vu débuter dans la capitale, de la plus grosse jusqu'à la plus petite. Et l'apothéose, ce sera une tournée des Zéniths avec soi-disant. Et ça, croyez-moi, c'est pas une rumeur.
Merci beaucoup, Mickaël.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Kev Adams. venu nous parler de son spectacle soi-disant qui sera en tournée dans les Zéniths à partir du 26-27 septembre à Metz, 3 octobre Toulouse, 4 octobre à Pau, 5 octobre Bordeaux, 11 octobre Rennes, 12 octobre Nantes, 16 octobre Orléans, 17 octobre Clermont-Ferrand, 18 octobre Saint-Étienne et 19 octobre à Dijon. Ne bougez pas, en revue.
Anne Roumanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Roumanoff sur Europe 1.
Sur Europe 1 ce lundi avec Mickaël Quiroga, Ben H, Christine Béroux, Jean-Philippe Bisini et notre invité Kev Adams venu parler de son spectacle soi-disant. Alors parlez-nous de ce spectacle justement, Kev Adams.
Bah, je m'attendais pas à cette question. C'est un spectacle effectivement qui retrace 10 ans mais sans être autobiographique parce que je sais pas ça vraiment que j'avais envie de faire. Je commence pas à raconter tout ce que j'ai fait depuis 10 ans, je commence plus à raconter comment je me sens. Dans la peau d'un mec qu'on considère comme l'humoriste des ados alors que je vais avoir 30 piges. C'est un peu ça en fait ce spectacle. J'essaye d'être franc, j'essaye de dire ce que je pense, j'essaye d'être parfois plus trash que je l'ai été par le passé, mais pas parce que j'ai envie d'être trash, juste parce que j'ai envie de raconter certaines histoires et j'ai plus envie de me priver de certaines histoires, de certains mots ou de certains moments de ma vie comme j'aurais pu le faire il y a quelques années pour peut-être protéger un certain public.
Vous êtes plus vous-même.
Ouais, j'ai envie de parler... J'ai toujours eu peur d'être un vieux ado. Tu vois ce que je veux dire ?
C'est une étiquette quand même, enfin que vous avez cultivée quelque part.
C'est
quand
pour
même.
Ça, à fond.
Et vous pensez que vous allez pouvoir la décoller
Je pense que le meilleur moyen de la décoller, c'est d'essayer de le faire le plus naturellement possible et de pas forcer les choses. Donc moi, j'essaie de pas forcer les choses. J'essaie d'y aller vraiment le plus vrai possible. Quoi. Je parle de sujets. C'est pour ça que ça s'appelle soi-disant, c'est parce que je parle de vrais sujets. Dont on a parlé en tout cas dans la presse sur moi. Donc j'attaque le spectacle par soi-disant je suis pas drôle, soi-disant je fais rire que les ados, et on commence tout de suite à démonter ces rumeurs là mais au-delà de les démonter, je dis ce que j'en pense et puis surtout je reste très ouvert avec le public, c'est-à-dire que je les interdis pas de penser ça eux quand ils sont dans le public. Et je le dis d'ailleurs dans le spectacle, Mickaël, c'est très juste, je dis je comprends aussi pourquoi on a cultivé ça et j'ai cultivé ça et j'en ai été fier très longtemps et j'en suis encore fier aujourd'hui. J'ai juste peur de m'enfermer là-dedans. Et donc pour pas s'enfermer là-dedans, je me dis là où tu te privais de faire certaines choses il y a quelques années, arrête de te priver de le faire. Là, si t'as envie de faire un sketch là-dessus, fais un sketch là-dessus.
Donc, c'est quoi les sujets, Gaud ?
Par exemple, les relations amoureuses. J'ai jamais réellement parlé de manière aussi intime de mes relations amoureuses. Alors après, je vais pas rentrer trop dans le détail du spectacle, puisque j'invite les gens à venir le voir. Mais j'ai jamais été aussi. Je parle des journaux People, du rapport que j'ai aux journaux People. Je parle de toute cette relation supposée qu'il y a eu effectivement l'année dernière et la manière dont je l'ai vécu, dont ma famille l'a vécu, comment ça s'est passé et comment c'était à l'intérieur vraiment de la relation, s'il y en a une. plein de choses dont j'avais envie de parler après 10 ans de carrière, effectivement, sur lesquelles j'avais envie de revenir et je le fais avec beaucoup de sincérité.
Kev Adams, Christine Leroux, des choses à vous demander.
Oui, alors déjà, je suis très émue. J'ai connu Kev à ses débuts, il y a 10 ans. À l'époque, je n'étais pas connue. Je jouais dans des petites salles. Ah là là, les choses ont bien changé. j'ai envie de lui chanter. On s'était donné rendez-vous dans 10 ans. Et ta carrière, elle est mieux. Non, ça fait plaisir de le voir. Et en fait, je suis tellement émue que, pardon Anne, mais je ne vais pas pouvoir réaliser cette petite interview. Je préfère utiliser des enregistrements de Kev Adams qu'on a déjà. Voilà, parce que ça m'évitera de le regarder dans les yeux.
Oui, beau, oui. C'est pas bien
voilà,
de faire
comme ça,
ça,
vous avez juste à être spectateur. Alors, Kev, heureux d'être avec nous ce matin.
J'ai rêvé de ça toute ma vie.
Vous connaissez Anne depuis très longtemps.
Oui, je l'ai rencontrée dans une boîte à Los Angeles qui s'appelle le One Oak.
Et ça a été le coup de foudre artistique. Que s'est-il passé ?
J'ai essayé de la draguer un peu.
Et alors, la revoir après toutes ces années, ça fait quoi ?
Et il y a un côté un peu flippant aussi quand même.
Quel souvenir elle vous a laissé ?
Moi, ça fait 6 ans que je me réveille avec la frousse.
Moi, Kev, je le connais depuis très longtemps. On a débuté dans le même lieu, le Pranzo. C'était un bar à pizza avec une scène. Moi, c'est la meilleure période de toute ma vie. Et vous, Kev ?
Moi, j'étais perdu au milieu de ce café. Putain, c'est un des pires souvenirs de ma life.
C'était mignon parce que c'était en 2008-2009 et chez tous les humoristes de l'époque ça flirtait, ça dragouillait, mais pas avec Kev parce qu'il était mineur et c'était illégal.
Alors attention, il y avait un moment où c'est pas que je voulais pas d'histoire, c'est qu'à un moment donné c'était foutu, il y avait des histoires.
Et depuis, très grande carrière, vous êtes non seulement humoriste mais aussi comédien. Pour me montrer vos talents de comédien, dites-moi un mensonge pour voir.
On doit très souvent te dire que tu chantes bien, mais je voulais te dire aussi que t'es très jolie.
C'est pas vrai parce que vous m'avez souvent dit que j'étais exceptionnelle.
J'ai jamais dit ça.
Et alors, comment vous sentez-vous à l'issue de cette émission ?
hyper content, le gars. Donc de très bonne humeur.
Merci d'avoir répondu à mes questions. Et là, j'ai une anecdote, Kev. Et là, tu vas être mal à l'aise. Et là, je te tutoie.
Vas-y.
Parce qu'on passe un cap.
Grave.
Alors, je sais pas si tu te rappelles, mais t'étais au lycée.
Tutoie-moi.
Et je sais plus pourquoi, mais je crois qu'il y avait une fille qui était jalouse. Tu voulais rendre jaloux une fille ou t'étais trop harcelée. Et du coup, on s'était mis en couple sur Facebook.
Mais je m'en rappelle de ouf, tu rigoles, quoi.
Merci, parce qu'en fait, mes petites nièces ne me croient pas.
Mais bien sûr,
alors,
je m'en rappelle
de
ouf.
On va le faire en podcast et je vais l'envoyer à toute ma famille. D'accord.
Non, merci, si c'est vrai, je le dis pour tes petites nièces, c'est vrai, c'était mignon. Je me rappelle très bien, on était en couple sur Facebook.
Et un jour,
j'étais assez fier, je t'avoue.
Mais moi aussi.
Ouais.
Et un jour,
je me disais, est-ce que je vais pouvoir profiter des avantages qui subsistent?
C'était pas légal ce que tu étais.
C'est ça.
J'avais 17 ans. Et tu m'as largué sur Messenger.
Non.
Si. Non mais. Ah ouais, et t'étais un peu mal à l'aise. Et en fait,
rappelle-moi comment ça s'est fait.
Tu m'as dit oui parce que ça a commencé à embêter parce que maintenant j'ai rencontré une fille et tout ça.
Merde.
Voilà. Et en fait, donc moi je disais bah ok, de toute façon il s'était jamais rien passé entre toi et moi, donc je disais c'est ok, voilà. Et
puis en fait, quand même une petite rupture quoi.
Mais après tu t'es déconnectée et je me suis sentie tellement seule. Je me suis dit
je
vais me faire larguer en fait.
J'étais très émotionnelle de la meuf.
Je vais me faire larguer d'un couple qu'on m'a demandé de créer par le faux quoi.
Merci.
Je m'excuse Christine, vraiment. Dans ma tête on est toujours en couple sur Facebook.
Waouh, merci pour ça.
Et maintenant le rabibochage, allez-y.
Kev Adams, donc cette année vos projets, j'imagine, c'est cette tournée qui est quand même très conséquente.
C'est cette tournée,
et un enfant
voilà.
Avec Christine Bérou
à venir très prochainement. Ouais, non, c'est ça, c'est cette tournée, et puis normalement le retour sur les plateaux de cinéma à la fin de l'année.
Mais pour l'instant, ça démarre très
pour
bien.
Pour l'instant, ça démarre très bien, mais c'est jamais gagné d'avance, donc. Mais on sait jamais, il peut se passer plein de choses. On sait jamais. Je connais comment il peut se passer plein de choses. Du jour au lendemain, il y a un journaliste, il vient et il
qu'est-ce que vous pensez des gilets jaunes?
voilà. Donc c'est pour ça, mon premier rêve, c'est que ça se passe bien déjà jusqu'à la fin de l'année. Pour
ça
ce
vous
spectacle.
Fait peur un peu de pouvoir être filmé tout le temps? Parce que maintenant,
on vit dans une génération qui, moi je le dis, sans problème, qui me fait flipper de ouf. Les humoristes peuvent plus rien dire, les gens peuvent plus rien dire. C'est flippant. J'ai vu l'autre jour un gars sur Twitter, il a écrit, c'est une vidéo de lui où il a peur. Mmh. Et il dit, j'ai hashtag cri de fillette. Il a mis ça, d'accord? Il y a 14 personnes en dessous sur mon post qui ont commenté, pourquoi fillette? Pourquoi pas cri de garçon? Alors, sous prétexte que c'est une fille, alors forcément elle crie plus fort. Et ils sont partis en vrille sur cri de fillette, qui est un truc qu'on a toujours dit. Quand un mec fait ah, on dit ah, il a fait un cri de fillette, c'est pas, y a rien de méchant là-dessus.
Parce que madame, ça fait un cri de fillette.
Tu vois ce que je veux dire, en fait, ouais. Et là, c'est parti en débat sociétal. Je lisais le truc, je me disais, mon Dieu, mais si même les gens normaux, ils peuvent plus rien dire, mais nous, les humoristes, on est morts d'avance.
Non, mais c'est carrément vrai, parce que y a la question, c'est est-ce qu'on peut rire de tout, mais on peut plus faire de vannes en fait, parce que même une vanne sur
c'est
un
même
extraterrestre,
plus rien de tout, ouais,
voilà,
ça.
C'est même une vanne sur un extraterrestre, on va vexer celui qui croit aux extraterrestres.
C'est un truc de
la
ouf.
La question, c'est est-ce qu'on continue ou on arrête l'humour en fait, tout simplement.
C'est un truc de ouf, et c'est pour ça que je suis très sincère quand je dis j'espère que ça va bien se passer, c'est qu'effectivement pour l'instant le spectacle ça se passe mortel, tous les gens qui viennent ça se passe mortel, jusqu'au jour où il y a un mec qui va venir et il va dire ah tiens j'aime pas là le double sens là-dessus là je vais appeler les associations que je connais quand même et ça part en vrille, il faut Ça me fait flipper, ouais, pour être honnête, ça me fait flipper.
Alors, après-demain à Vichy, 9 mai à Bourges, 10 mai à Tours, 11 mai à Bressuire, 12 mai Fougères.
C'est ça, mais on va pas finir en disant toutes les dates de la tournée.
Non.
On va finir cette émission d'une manière plus joyeuse quand même.
Le plus simple, ça serait de dire, il sera pas à Juvisy le 22. Voilà, tout le reste il y est, quoi.
Il sera pas à Juvisy, c'est vrai.
Europe 1, André Lamour. L'histoire de la semaine.
On a une tradition dans cette émission, Kev Adams. Chaque lundi, on démarre une histoire. À vous de la démarrer avec un mot pioché au hasard dans ce chapeau.
Avec plaisir.
Donc une ou deux phrases. Et ce sont les invités de la semaine qui la poursuivront.
Ah, c'est drôle. Donc c'est le mot fiston.
Fiston.
Voilà.
Le film que vous avez fait avec Franck Dubosc.
Exactement. Mais si on l'utilise en tant que verbe, ça fait un début d'histoire.
J'allais dire, j'espère que c'est le nom commun et pas le verbe.
Allons-y, je vous écoute.
J'ai envie du coup,
allez-y,
Anne,
allez-y,
de commencer. Ils étaient deux dans une forêt et là, non, et on va commencer par... c'est l'histoire d'un papa qui habite dans une grande maison à la campagne et il sort de sa grande maison et très inquiet, il crie « Fiston !» Ça démarre quoi.
Merci Kev Adams d'être passé nous voir. On rappelle votre spectacle soi-disant à Paris du 22 au 26 octobre 2019 et tourné dans tous les zéniths à partir du mois de septembre. Merci à vous Kev Adams.
Merci à vous et vive l'humour.
Et allez voir aussi tous les chroniqueurs sur scène. Allez voir tout le monde. Tous les humoristes veulent le coup d'être vu, croyez-moi, c'est de la balle. Bisous.
On vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin. Nous, on sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.